Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus martyre.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de
tout ici Jarbodima
qui renverse des raisonnements, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Satan ne joue pas ». Il n'est pas en train de s'amuser. Il y a des gens qui croient qu'il s'amuse. Il y a même des gens qui ont dessiné autrefois l'enfer comme une espèce de lieu où il y avait des marmites. Vous savez, et les damnés, ils étaient dans les marmites. Et autour, vous aviez toutes sortes de démons et de diables en rouge avec des cornes, avec la fourche, en train de les faire rôtir et de s'amuser. Mais ça, c'est le fruit de l'imagination de quelques artistes, mais ça n'a aucun rapport avec la réalité. Il n'est pas en train de s'amuser, il ne peut même pas goûter à aucune forme de joie. La seule chose qu'il cherche à faire, c'est la réalité de sa nature de tueur et de destructeur. Donc il faut qu'on comprenne ça aussi concernant notre vie, entre guillemets, avec lui. Hein. On ne vit pas avec lui, mais il est présent dans notre vie. Et je précise tout de suite, il n'est pas présent lui-même, le diable, avec chacun de nous. Il est quelque part dans le monde, ça c'est sûr. Je ne sais pas si j'ai ou vous avez déjà eu affaire avec lui personnellement. Il s'occupe peut-être de quelqu'un d'autre, hein. Mais en général, il a aussi ces mauvais esprits qui agissent, et ils agissent tous dans le même sens, pour la destruction. Donc je vais parler du diable ou de Satan, et ça va être une façon de personnifier un mauvais esprit ou un démon qui peut agir, parce qu'ils sont là pour nous influencer dans le mauvais sens, mais ça ne veut pas dire que ça sera lui-même. On est bien d'accord là-dessus ? D'accord ? Jésus, lui, avait affaire au diable lui-même, c'est lui qui l'a tenté. Mais ici, quand nous, par exemple, nous disons « Satan, je te résiste », c'est peut-être lui ou c'est peut-être un autre qui travaille dans son camp. Donc c'était juste pour préciser ça. Et ça nous amènera déjà à une chose qu'on va dire par la suite. Il n'est pas omniprésent. Il n'est pas du tout l'égal de Dieu. Dieu, lui, il est partout à la fois. Et vous avez chacun de vous la possibilité d'avoir une relation personnelle. Tout le temps que vous voulez avec lui, il vous écoute, il vous parle, etc. C'est complètement différent. Mais quand je dis Satan ne joue pas, je crois que Jésus veut bâtir une église, que j'ai dit entre guillemets plus, une église plus conquérante. Vous le croyez ça? L'église doit être plus militante et plus conquérante. Pensez à ce que nous avons vécu dans cette partie de la France. Nous avons eu dans la Deuxième Guerre mondiale la France occupée, une partie, et là encore, c'était pas une situation où les gens ont dit « Eh bien, c'est comme ça, on accepte le compromis, moitié du pays est sous occupation nazie, mais il y a des gens qui ont collaboré, il y a des gens qui se sont dit « On peut rien faire », mais il y a aussi eu les résistants, ceux qui préparaient la libération. » Et moi, je dis que on ne pouvait pas faire un compromis avec les nazis. On ne pouvait pas dire, bon, ok, on accepte leur présence, etc. Remarquez bien que je dis bien les nazis, parce que pour moi, ce n'est pas une guerre Allemagne-France. C'est une guerre de certaines personnes influencées par le diable, par toute une idéologie, qui s'attaque à d'autres gens pour les dominer et pour les détruire. D'accord ? C'est très important de faire ça, surtout maintenant, 60 ans après la libération. Et donc, par exemple, on ne pouvait pas faire de compromis en disant « Ok, on vous donne cette partie et vous nous laissez tranquille ici. » Parce que ce n'était pas du tout dans l'esprit de ces gens. Si, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, ils avaient un de leurs chants qui disait « Aujourd'hui, nous allons conquérir l'Allemagne et demain le monde entier. » Ça, c'était un de leurs chants de guerre qui disait qu'on veut dominer le monde entier. Et donc, de la même façon, la Bible nous dit clairement que ça plaise ou non, et des fois c'est une source de confusion, même pour les croyants. La Bible nous dit dans 1 Jean 5, 19, si vous voulez noter la référence, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Vous voyez, la révélation de la parole est claire, nous dit le psaume 119. Elle donne de l'intelligence au simple. Quand vous avez compris ce verset, vous ne vous posez plus toutes ces questions que les gens se posent en disant « Mais si Dieu existait, pourquoi ceci, pourquoi cela ?» La réponse est simple, parce qu'il y a un diable. Ici, il est appelé le malin, parce qu'il agit dans ce monde, et que le monde, dans son système et dans son ensemble, est sous la puissance du malin. Mais il nous est dit, nous sommes de Dieu. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on peut dire, de ce pays occupé, qui est en fait le monde entier, il y a une poche de résistance qui a commencé par la personne de Jésus-Christ, et qui s'est étendu, et là, le royaume de Dieu, il ne vient pas de manière à frapper les regards, c'est pas un pays chrétien et un autre pays païen, c'est au monde entier, système du monde qui appartient au diable, il y a partout maintenant des résistants. Mais les résistants, ils veulent pas juste résister pour eux-mêmes. Ils ont un but. Le but leur a été donné par, on veut dire, leur commandant en chef, et c'est de regagner le pays qui est occupé. D'accord ? On est tous d'accord là-dessus ? Donc, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de trêve, il n'y a pas de cessez-le-feu, et il n'y a pas de zone démilitarisée. Ça n'existe pas. Sur terre entière, vous ne trouvez nulle part un endroit où vous dites, là, on peut se reposer. Ça n'existe pas. Il y a le monde entier sous la puissance du malin. Il n'y a que spirituellement qu'on peut trouver un endroit de repos, là où il y a le royaume de Dieu. D'accord ? Donc, il existe un ennemi qui veut te détruire. J'ai dit, Satan ne joue pas. Il veut ta destruction totale. Demandez à votre voisin, as-tu peur du diable ? Donc, dites-lui, Jésus a vaincu le diable pour toi. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Dans 2 Corinthiens 2, 11, il nous est dit que nous ne devons pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Mais des fois, j'ai l'impression que nous agissons tout de même comme si on ignorait ses desseins. Dans notre quotidien, on n'est pas toujours conscient de la façon dont il attaque, dans la façon dont il fait ses ruses. Comme si vous préférez, quand j'ai donné l'idée que Satan n'est pas en train de jouer, si vous vous rappelez que, par exemple, en été, quand les gens vont à la piscine, que les enfants veulent s'amuser, une des choses qu'ils aiment bien faire, c'est jouer à se couler. Vous avez déjà vu ça ? On aime bien mettre la main sur la tête d'un autre et le faire passer sous l'eau. Mais, tant qu'on joue, qu'est-ce qu'on fait ? Au bout d'un moment, on le laisse remonter pour qu'il puisse de nouveau respirer, d'accord ? Mais quand vous voyez qu'il y a, même parmi les enfants, il peut y avoir certains qui sont vraiment pervers et qui poussent et qui laissent en dessous, d'accord ? C'est là que vous voyez la différence entre le jeu et ce qui vient déjà du malin, vouloir faire mal. Il y a une différence entre juste vouloir faire passer l'eau, la tête sous l'eau, ou vouloir réellement faire mal. Eh bien, avec le diable, il n'y a aucune comparaison, parce que lui, il veut vraiment vous garder la tête en dessous. Mais pas simplement pour que vous soyez en train de boire une tasse, pour que vous soyez mort, noyé. D'accord ? Donc, il y travaille, il ne joue pas. Dans Jean 10, 10, c'est le fameux verset qui nous explique les objectifs du diable, les desseins, ou si vous préférez ses objectifs. Il est dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Donc, voleur, dérober, on comprend que c'est un petit peu pareil, voleur ou dérober. Par contre, j'ai me réfléchi aussi pourquoi avoir mis ce détail, égorger et détruire. Alors, on va réfléchir un petit peu à quelques aspects. Premièrement, qu'est-ce que le diable cherche à vous dérober? Il cherche à vous dérober, on peut dire d'une certaine façon tout, D'accord? Mais est-ce qu'il peut dérober la parole de Dieu? C'est la semence incorruptible. Dans un certain sens, nous savons que si nous plantons la semence, il ne peut pas y toucher. Nous pouvons y toucher. Il peut nous pousser à nous-mêmes arracher de nouveau ce que nous avons planté. Mais il y a une chose qui est très importante que le diable essaiera de dérober chez le chrétien, c'est votre joie. Vous avez la joie du salut au début parce que c'est quelque chose qui vient de Dieu. Au début, quand vous rencontrez Jésus-Christ, vous avez une joie surnaturelle qui se manifeste. N'est-ce pas vrai? Personne ne se convertit sans expérimenter la joie du salut. C'est la révélation, la vérité, c'est vraiment lui, Jésus le Sauveur, il est dans ma vie. C'est la joie du salut. Et vous savez certainement ce verset qui dit dans Néhémie 8, 10, « La joie de l'Éternel sera votre force. » Juste avant, il est écrit « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Donc, s'il arrive à vous prendre votre joie, il prend en même temps votre force. Si vous êtes faible, alors après, il pourra faire tout ce qu'il veut avec vous. Donc, soyez bien conscient que quand on parle du voleur, il veut peut-être voler plein de choses dans votre vie. Votre santé, votre famille, votre travail, plein de choses extérieures ou intérieures. Votre paix, votre joie, plein de choses. Mais il va commencer, par exemple, par la joie du salut, pour que vous rappeliez plus que vous avez cette relation étroite avec Jésus, que vous avez été transporté dans le royaume de Dieu. J'ai parlé tout à l'heure, c'était pas pour me moquer de l'enfer. J'ai parlé tout à l'heure de ces endroits qu'on imaginait avec des flammes et des marmites. Même si le côté marmite n'existe pas, même s'il n'y a pas les diablotins qui s'amusent, l'enfer, les lieux inférieurs, et ce qui est annoncé dans la Bible comme étant les temps de feu et de soufre, où seront les damnés pour l'éternité, est pourtant une réalité. Et là, on peut dire, ça ne rigole pas. D'accord? Il n'y a aucune joie là-dedans, et c'est une réalité. Et de savoir que nous n'avons pas cette destinée éternelle, c'est ce que le Seigneur disait de nous réjouir à ce sujet. Moi, personnellement, ça m'a fait plaisir d'expérimenter à certains moments que les démons nous sont soumis dans le nom de Jésus. Même quand nous avons vu des démons se manifester et parler et agir au travers de personnes, et que nous avons vu que le nom de Jésus est plus fort, alors que nous n'avons pas l'impression d'être des géants spirituels, mais je vous assure que ça, c'est quelque chose d'enthousiasmant comme expérience, de dire c'est vrai, ces choses, ça marche, les démons nous sont soumis dans le nom de Jésus. Mais Jésus disait tout de suite, il disait, ne vous attardez pas sur ça. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Et ça, c'est une chose qui ne changera jamais. Vous réalisez ça? Vos noms sont inscrits, c'est quelque chose qui ne changera pas. Si vous pouvez vous réjouir de ça, vous pouvez demeurer dans cette joie du salut constamment. Et c'est une source de force, et je vous garantis, des forces, on en a besoin quand même pour résister au diable. N'est-ce pas vrai? Parce que même s'il n'est pas tout puissant comme Dieu, on ne peut quand même pas dire que d'une chiquenaude, on s'en débarrasse, et qu'il y a quand même en face des adversaires qui ont une puissance spirituelle. D'accord? Même s'ils ont été dépouillés, on va voir ça. Donc, après dérober, on a égorgé. Alors, que veut dire égorgé? On fait un petit descriptif. Égorgé, ça veut dire trancher la gorge. D'accord? Éventuellement, quelqu'un qui a la gorge tranchée, qu'est-ce qui se passe? Il meurt pas forcément instantanément. D'accord? Il peut mourir instantanément, si c'est fait proprement, mais il faut réfléchir à ce que la Bible nous dit ici, parce que c'est quelque chose d'important. Mais je crois que dans la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'il y a d'abord du sang qui s'écoule. On peut dire qu'on est en train de se vider de son sang, et ça, c'est pour moi une image spirituelle très forte. Parce que c'est ce que le diable fait la plupart du temps. Il ne supprime pas les chrétiens instantanément, parce qu'il y a quand même la force de Dieu en nous. Il y a la vie de Dieu en nous. Mais ce qu'il cherche à faire, si vous me permettez, c'est peut-être une image un petit peu dure, mais pour visualiser ça, il cherche à faire une brèche dans notre vie. Comme quand quelqu'un est égorgé. Il y a une ouverture par laquelle le sang sort. Et de la même façon, dans le sang, il y a la vie de l'âme. il nous est dit dans Lévitique 17:11, car l'âme de la chair est dans le sang. À ce moment-là, la vie de Dieu qui est en nous est en train de quitter notre corps. Et vous voyez alors cette idée de un corps qui s'affaiblit peu à peu. La mort est en train de gagner du terrain. Ça, c'est important parce qu'on peut dire qu'on ne passe pas du stade de vivant immédiatement au stade de mort. Il peut y avoir des situations où la vie spirituelle du croyant est en train de diminuer. Et là, il faut, on peut dire cette image, quand la vie quitte notre corps, il faut rester attaché à celui qui est la tête. Jésus est la tête, nous sommes le corps de Christ. Il se trouve que l'image a été donnée au niveau de la gorge. Il y a quelque chose, une séparation, et la vie qui sort. Donc restons attachés à la tête, à celui qui a dit « Je suis la vie ». Ainsi que la vie de Dieu peut rester constamment en nous. Donc veillons bien à ce qu'il n'y ait pas des brèches par lesquelles notre énergie, notre force spirituelle est en train de partir. Mais c'est son dessein. Il veut dérober notre joie pour nous affaiblir. Il veut nous égorger, faire que la vie de Dieu s'écoule de nous. Et il veut aussi nous détruire. Donc sachez bien qu'il ne s'arrêtera pas de lui-même avant qu'il ait tout détruit. Il ne va pas attaquer et dire « Bon, je lui ai causé assez de dommages, ça suffit, il a son compte. » Non, il va attaquer jusqu'au bout. Son objectif, c'est de détruire, pas juste marquer un point contre vous. J'ai pensé à l'image d'un chat qui attrape une souris. Certains ont peut-être déjà vu un chat qui joue avec une souris qui n'est pas encore morte. Et pour nous, ça nous paraît cruel, n'est-ce pas vrai? Mais moi, j'ai médité là-dessus et je me suis dit, je ne pense pas qu'il y ait réellement de la cruauté chez l'animal. Je peux me tromper, hein, parce que j'ai jamais interrogé de chat pour lui dire ce qu'il ressent. Mais nous, on dit que le chat joue. Et ça nous semble moralement répréhensible parce qu'il torture cette pauvre petite bête. Mais moi, je crois que, en fait, quand vous le voyez, il la laisse s'échapper et il l'attrape de nouveau. D'accord? C'est ce qu'il fait, le chat. Et moi, je crois que son instinct de chasseur lui dit qu'il faut qu'il s'entraîne et qu'il garde des réflexes assez vifs pour qu'il soit capable encore d'attraper d'autres proies par la suite. Parce que ça dépend de son avenir. S'il commence à être un petit peu émoussé au niveau de sa rapidité, de ses réflexes, moi, je crois que c'est un entraînement qui est un entraînement d'instinct. Et donc, quand on dit que le chat, il joue avec sa proie, c'est notre façon humaine de voir les choses. Mais là encore, le diable ne s'amuse pas avec nous. Son objectif est de détruire. C'est clair dès le début. D'accord? Même si vous avez l'impression des fois qu'il y a un relâche, il n'y a pas de relâche. Là, l'image du chat et de la souris est tout à fait valable. Le final, ce sera que la souris va se faire croquer. Il va, même si on a l'impression qu'il la laisse filer, c'est pourtant la réalité. Donc, dans le domaine de la destruction, il n'y a pas de meilleure illustration que ce qui s'est passé pour Job. On ne va pas regarder l'ensemble de l'histoire de Job en détail, mais simplement lire quelques points. Dans Job 1:9, il nous est dit « Satan répond à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Nous voyons dans la suite de l'histoire de Job qu'en fait, non seulement content de vouloir attaquer Job et lui causer du malheur, le diable cherche en fait à pousser Dieu lui-même à faire du mal à Job. Et nous voyons que ce n'est pas dans la nature de Dieu de le faire, il ne veut pas le faire. Ce n'est pas non plus que Dieu ne veut pas se salir les mains, il emploie le diable comme son homme de main pour faire le sale boulot. C'est simplement que Dieu dit, il est entre tes mains dans le sens de ce que nous avons vu avant. Le monde entier sous la puissance du malin. Depuis que Adam et Ève s'étaient laissés séduire, il y a une action du diable dans ce monde. Et Job pouvait être en sécurité, mais nous voyons que dans la Bible, nous voyons qu'il basait sa sécurité sur lui-même, sur sa propre intégrité. Et donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir que peu à peu, le diable détruit tout ce que Job y possède. D'abord, ses biens, ses troupeaux, sa famille, ses fils, ses filles, sont tous morts d'un coup. Ensuite, il nous est dit que le diable attaque Job lui-même dans sa santé, Job 2:4. Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Étends ta main, touche à ses os et sa chair, je suis sûr qu'il te maudit en face. » Là encore, il dit, « Vas-y Dieu, attaque-le dans sa santé. » Mais c'est pas Dieu qui le fait. Et verset 7, il dit, « Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin. » C'est lui qui l'a frappé, d'accord ?« Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. » Donc cette fois-ci, dans son œuvre de destruction, il attaque la santé de Job. Et on peut dire maintenant, il attaque encore, au travers de cette expérience, il attaque encore son couple. Parce qu'au verset 9, il est dit, « Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Au lieu de le soutenir, en fait, il faut comprendre que dans la mentalité de l'époque, celui qui maudissait Dieu, on le voyait comme puni de Dieu et donc qu'il allait mourir. D'accord ? Et donc, elle, voyant son mari dans cet état de souffrance physique, s'est dit, si tu maudis Dieu, eh bien, il va te faire mourir et d'une certaine façon, ça sera une libération par rapport à ta souffrance. Mais malgré tout, on voit que elle a quand même pas un rôle où elle se tient à ses côtés et le soutient. Elle voit les choses d'une certaine façon, mais elle n'est pas là à le soutenir. Et Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Insensée, ça veut dire, l'insensé dit, il n'y a pas de Dieu. Comme si Dieu n'était pas là. Job avait constamment conscience de la présence de Dieu dans sa vie. Et il ne lui a attribué rien de mauvais, il nous est dit dans la parole. Et donc, tout y passe dans le reste du livre de Job. On voit sa dignité, sa position morale. Il perd ses amis parce que ses amis viennent apparemment pour le consoler, mais ils font un mauvais diagnostic sur la situation. Les amis de Job ne disent pas des choses qui sont forcément fausses, mais qui sont fausses pour le cas de Job. C'est ça qui ne va pas. Et donc, dans ce sens, ils ne lui aident pas. Et c'est la même chose pour nous, des fois. On veut aider quelqu'un, dans la famille, dans l'église, un frère et sœur, et on lui donne des références bibliques qui sont justes, mais si elles ne s'appliquent pas à la situation, on peut des fois faire plus de mal que de bien. Et on peut être un consolateur de Job. Et donc, on a besoin d'être attentif à la façon dont on veut aider les autres. Et donc, bien sûr, ça c'est une illustration de ce que le diable veut faire dans la vie de chacun d'entre nous. Il veut tout détruire. Donc on a besoin d'avoir une position de foi et de résister dans la foi pour tout ce qui nous concerne. Tout. Et bien sûr, le diable veut détruire aussi les églises. Hein. L'église de Jésus-Christ dans son ensemble et les églises locales, bien sûr. Dans 1 Timothée 3:15, il nous est dit « Afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. » La colonne et l'appui de la vérité. Comprenez pourquoi l'Église doit être détruite par le diable autant que possible. Parce qu'elle est la colonne et l'appui de la vérité. Si vous êtes seul dans votre combat, vous pouvez douter de certaines choses. C'est là que l'Église prend tout son sens. C'est un endroit où normalement l'Église joue le rôle de colonne et d'appui de la vérité. Si vous avez besoin de savoir de nouveau où vous en êtes avec Dieu, quelle est la position de Dieu pour certaines choses, c'est dans l'Église que vous allez trouver la colonne et l'appui. Vous allez trouver de l'appui et vous allez trouver quelque chose de solide. Donc vous voyez bien pourquoi il faut que cela soit détruit aussi par le diable. Donc il nous faut dénoncer quelques mythes. Les mythes concernant le diable, c'est par exemple, si tu attaques le diable, il va t'attaquer. Ça, c'est une chose très, très répandue. Sous-entendu, si tu n'en fais pas de trop, il va te laisser tranquille. C'est ça que ça veut dire, hein. en disant, celui-là, il a vraiment fait des choses importantes pour le royaume de Dieu. Résultat, le diable l'a attaqué. Alors, il y a immédiatement des croyants qui, ayant peur de, que le diable les serre de trop près, disent, il ne faut pas que je m'engage trop avec Dieu. Mais ça, c'est un faux raisonnement. C'est une erreur. Parce que nous avons vu à l'instant que son dessein, c'est de nous détruire. Donc, il ne va certainement pas s'arrêter à ça. Vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais servi Dieu et pourtant le diable les attaque et leur donne des cancers et toutes sortes de maladies, des problèmes de toutes sortes. Hein. Et c'est pas parce qu'ils ont glorifié Dieu qu'ils ont ça. Donc, ne faites pas attention à ça. Un autre mythe, c'est que le diable est partout. Non, il n'est pas partout. Il n'est pas l'égal de Dieu. Il n'est pas omniprésent. Il y a, c'est vrai, il y a des esprits, il y a des démons qui agissent, mais là encore, ils ne sont pas partout et tout le temps présents partout. Il y a des influences, c'est vrai, mais on ne peut pas penser ça. Le diable, certains croient qu'il peut tout savoir de nous et lire nos pensées. Ça non plus, ce n'est pas vrai. Comment pourrait-il le faire? Il n'y a que Dieu qui est omniscient, qui sait tout. Par contre, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut nous étudier. Il peut, et ça fait des milliers d'années qu'il étudie le genre humain et il nous connaît bien. Il sait, il peut étudier nos paroles, il peut étudier nos actes. Et donc il sait, ah, quand je lui donne cette pensée, il réagit par rapport à la pensée. Et l'action qui suit notre pensée ou notre parole montre par là que la pensée a été reçue. Vous me suivez? Donc il est en train d'étudier l'espèce humaine. Dieu, lui, n'a pas besoin de nous étudier parce que lui nous connaît parfaitement. Il sait tout ce qu'il y a en nous. Il nous connaît. Un autre mythe, c'est que certains pensent que le diable est pratiquement aussi fort que Dieu et qu'on se demande qui va l'emporter. Vous savez que pour les satanistes, ils sont persuadés qu'il y aura une grande bataille, comme la Bible le dit, mais que finalement... Jésus, le Saint-Esprit, les anges vont tous se mettre ensemble, mais que c'est le diable qui va l'emporter. Ça, c'est ce qu'ils prêchent dans leurs églises. Ils croient que c'est Dieu qui va se faire vaincre. Mais nous savons que ce n'est pas le cas. Mais nous avons besoin de veiller à ce que nous puissions surtout fixer nos regards sur la toute-puissance de Dieu et pas penser que nous sommes battus d'avance. Alors, on a vu un peu ces objectifs. Je voudrais encore parler de ces méthodes. Demandez à votre voisin, connais-tu ces ruses? Éphésiens 6, 10 nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. La ruse numéro 1 a commencé en Genèse. Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est encore une ruse appliquée tous les jours, parce que ça marche bien. Ça attaque l'intégrité de la parole de Dieu, ça met en doute la parole de Dieu pour nous. Genèse 3:1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc réfléchissez à des exemples dans votre vie du quotidien. Quand vous êtes dans la difficulté, demandez-vous, que dis-tu de cette situation, Seigneur? Est-ce que vous vous posez des questions sur vous-même? Parce que c'est ça qui est important, de voir où est-ce que j'en suis. Est-ce qu'il y a une promesse quelque part pour cette situation? Est-ce que Dieu a déjà parlé de cette situation? De mon état d'âme? État d'âme, sentiment de déprime, une souffrance, un défi? Donc, c'est important de voir, est-ce que des fois, en nous, il y a cette pensée? Mais est-ce que Dieu a réellement promis quelque chose? Par exemple, la victoire dans un domaine ou un autre. Je me rappelle, au début de ma vie chrétienne, je lisais certains livrets. Il y en a un qui s'appelait « Pleine victoire ». Beaucoup d'entre nous, on cherche à remporter une victoire dans un domaine ou un autre. Beaucoup ont aussi échoué. Alors, à cause des échecs, il y en a qui contournent la difficulté et se disent « ça ne marche pas toujours ». Et on trouve beaucoup d'explications. Alors, quand on est dans cet état d'esprit, l'important pour nous, c'est de se poser cette question, mais dans le bon sens du terme. Dieu a-t-il réellement dit ? Pas pour mettre en question ce que Dieu a dit, mais pour s'assurer qu'il y a vraiment une promesse de Dieu. Comprenez ce que je veux dire ? De ne pas rester simplement sur des suppositions ou sur notre théologie personnelle. Au bout d'un moment, chacun de nous a construit sa propre théologie. N'est-ce pas vrai ? Je pense que ici, dans cette salle que nous sommes, il n'y en a pas un qui ait la même théologie que l'autre. Notre théologie est le résultat de tout ce que nous avons appris, toutes nos doctrines, nos expériences, et on se forme comme ça un ensemble d'idées. Donc, il y a des fois des choses qui doivent être certainement révisées, et au bout d'un moment, on découvre dans la Bible, on entend un message, « Ah, j'avais toujours cru ceci ou cela, mais je découvre qu'il n'en est rien. » Des fois, c'est sur des choses secondaires, sans trop d'importance. Des fois, c'est sur des choses plus importantes. Mais donc, la question importante, c'est non pas pour mettre en doute les promesses de Dieu, mais c'est de se poser la question, Dieu a-t-il réellement dit sur les choses que je crois ? Si je fais des déclarations, si j'ai quelqu'un en face de moi qui pose des questions et je dis des choses, est-ce que j'ai vraiment de l'assurance ? La ruse numéro 2, c'est un peu des rappels pour certaines personnes, mais on a tous besoin qu'on se rappelle ces choses. Ruse numéro 2, c'est le mensonge. Jean 8, 43, Jésus disait, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» Il parlait et ça ne passait pas. Il ne pouvait pas saisir. Pourtant, vous êtes d'accord avec moi que nous qui lisons maintenant la parole, on trouve que les choses que Jésus exprime sont souvent des choses très simples, des choses de la vie de tous les jours, sur les troupeaux, les bergers, sur les champs, la semence, sur la femme qui fait sa pâte et qui met du levain, et toutes ces choses semblaient pourtant compréhensibles. Mais lui, il dit, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ?» Et ça, c'est très important de réaliser. Il dit, « Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Donc, quand j'ai dit « le diable veut faire une œuvre de destruction », on peut dire que, littéralement, il nous bombarde de mensonges à longueur de journée. Autant Dieu essaie de nous dire constamment la vérité, on peut dire qu'on a de l'autre côté un autre son de cloche, c'est tout le temps des mensonges, des mensonges, des mensonges. Il a pensé ceci, elle a dit ça de toi, etc. Et toutes des mensonges, tu ne réussiras jamais, ça ne va pas aller, ça marche pour les autres, pas pour toi. Des mensonges, des mensonges, des mensonges, constamment, constamment. Et donc, ce qui est important, c'est de voir quand nous nous parlons les uns aux autres, qu'on se parle le langage de la vérité. Vous imaginez que l'apôtre Paul a dû écrire aux Éphésiens, renoncer aux mensonges. Il a écrit aux Éphésiens. Il n'a pas écrit, Jésus ici a parlé à des gens qui n'avaient pas expérimenté la nouvelle naissance, qui avaient pour père le diable. Les Éphésiens étaient chrétiens dans le sens qu'ils ne faisaient plus partie de la famille du diable, mais ils continuaient d'agir comme ils avaient fait avant. Ils continuaient de parler un langage qui est un langage de mensonge. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il fallait qu'ils leur disent, renoncez au mensonge. C'est dans Éphésiens 4, il me semble, verset 25, « C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. » Éphésiens 4, 25. J'aime bien cette illustration des trois passoires de Socrate, et je vais encore une fois utiliser cette illustration, certains la connaissent déjà, mais ça fait du bien de se le rappeler. Socrate était donc ce philosophe grec et il avait autour de lui des disciples comme c'était l'habitude à l'époque. Combien d'entre vous avez déjà entendu cette illustration, les trois passeurs de Socrate? Combien d'entre vous se rappellent? À peu près. Donc, il vivait avec des disciples qui voulaient apprendre la sagesse. Et c'était longtemps avant Jésus-Christ. Hein. Et donc, lui, il leur imposait une discipline de pensée et d'action. Et voilà ce qu'il faisait, ce qu'il devait faire. Avant de lui parler de quoi que ce soit, il devait passer par trois passoires. La première, il devait se poser la question, la chose est-elle vraie? Si la chose n'était pas vraie, si c'est juste une rumeur, il paraît que quelqu'un m'a dit que... Vous avez remarqué combien rapidement les gens peuvent colporter une nouvelle sans être sûr ni des précisions, ni des détails, ni de l'origine, ni est-ce que ça s'est vraiment passé. Mais parce qu'il y a un désir et un plaisir de colporter. Et c'est là que nous voyons justement l'esprit du mensonge et qui chaque fois déforme et amplifie. Et à la fin, vous arrivez avec une chose qui est complètement sidérante. Donc d'abord, il fallait vérifier, est-ce que la chose est vraie? La deuxième, c'était, on parle de philosophe grec ici, hein, on ne parle pas encore de la parole de Dieu. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une chose, on peut dire, dont il est convenable de parler, une chose qui fait du bien, une chose qui édifie? Et la troisième, c'était, est-ce que c'est utile que je le sache? Vous imaginez si on appliquait rien que ces trois passoires chez les chrétiens du monde entier, combien ça diminuerait les critiques, calomnies, colportages, tout ce qui détruit l'œuvre de Dieu. Et là, je parle, c'est des principes que nous comprenons être des principes spirituels, mais qui ne sont même pas dans la parole de Dieu. Mais l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Si les chrétiens disciples de Jésus, et non pas disciples de Socrate, mettaient en pratique ces choses, imaginez le changement dans leur vie et dans les églises. Philippiens 4:8 dit la chose suivante. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Vous voyez, il plaçait le standard assez haut, hein. Voilà l'objet de vos pensées. Constamment. Voilà les choses que vous devez penser. Quand on pose la question numéro 3, est-ce que c'est utile que je le sache? Moi, ça me fait penser à 1 Corinthiens 6, 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a beaucoup de choses dans ma vie, j'ai pas besoin de m'en occuper. D'accord? C'est pas utile. Ça va au contraire, ça va m'encombrer. Ça va me gêner dans ma marche avec Dieu. Je vais m'en débarrasser. Donc, la ruse numéro 3, nous faire croire que nous luttons contre des hommes. Dans Éphésiens 6, 12, il nous est dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Or, une des stratégies du diable, c'est de constamment nous déplacer le débat pour que nous ayons l'impression, c'est lui, c'est elle, c'est eux qui me posent des problèmes, s'ils n'étaient pas là, problème serait réglé, de croire que parce que mon patron me fait telle chose, que c'est à cause de lui. Et ça peut être vrai pour des voisins, pour des membres de la famille, pour des gens dans l'église, mais trop souvent on se débat avec des personnes au niveau humain. Pression, sentiment, raisonnement, on le gère au point de vue humain. Il ne faut pas voir des démons partout et là où ils ne sont pas, mais il faut quand même voir que la plupart du temps, il y a un esprit qui agit derrière les personnes et qui cherche à les pousser à vous faire du mal, les pousser à vous enlever votre joie et votre paix. Et que ce n'est pas toujours de leur propre fond qu'ils parlent, mais c'est aussi poussé. Nous avons eu la démonstration récemment encore, où des serviteurs de Dieu nous ont raconté comment quelqu'un était persuadé qu'une autre personne avait dit quelque chose. Je crois que c'est vraiment le diable qui a soufflé quelque chose dans son oreille. Il a dit, si, si, j'ai entendu ça, je l'ai entendu de mes oreilles. Et ce n'était pas le cas. Donc, c'est des choses qui arrivent. Et nous devons donc réaliser que nous n'avons pas une lutte humaine. Ça nous aide aussi à aimer les personnes. Vous voyez? C'est pas vraiment lui qui veut me faire du mal. C'est le diable, l'adversaire qui essaye de m'atteindre à travers lui. C'est pour ça que des fois, on fait du mal aux gens qui nous sont le plus proches et qu'on aime le plus. Sans le vouloir. C'est pas raisonnable. Mais parce qu'il sait bien. C'est là que ça touche le plus. C'est là que ça le fait le plus mal. Et c'est là peut-être aussi qu'on baisse la garde. Dans le sens que on s'y attend pas si c'est la personne qui est proche. Donc ça veut pas dire qu'il faut se méfier de tout le monde. Mais ça veut dire qu'il faut être vigilant spirituellement pour savoir comment réagir. À l'inverse, donc j'ai dit non pas à lutter seulement humainement et ne pas voir les choses seulement humainement. À l'inverse, Galates 5, 19 nous dit « Les œuvres de la chair sont » et il y a toute une liste de choses, des choses qu'on voudrait attribuer au diable, comme la sorcellerie, magie, des choses comme ça, qui sont dans cette liste des œuvres de la chair. Mais ça veut dire que le diable ne peut rien faire s'il ne trouve pas de la chair pour appui. Il a besoin de notre nature humaine, charnelle, qui a ses faiblesses, et il utilise à ce moment-là comme un créneau pour atteindre le monde. On peut dire qu'il y a deux forces en présence, celle de Dieu et celle du diable, qui chacun cherche à agir sur cette planète Terre. On peut dire que le diable, lui, cherche à posséder, à dominer, et Dieu cherche à trouver des personnes qui l'accueillent, qui l'invitent. Ainsi, une personne peut être remplie du Saint-Esprit, influencée pour le bien, une personne peut être possédée du diable et agir pour le mal. C'est tout le résumé de l'histoire tragique du monde dans laquelle nous sommes, mais elle est seulement tragique actuellement. Mais nous savons que la fin va être heureuse, du moins pour ceux qui l'auront choisi. Et la quatrième ruse dont je voudrais parler encore, c'est la séduction. La séduction a quelque chose de particulier. Il nous est dit dans Éphésiens 4, 14, « Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » Ici, il nous est dit que c'est les hommes qui trompent et séduisent, mais on peut dire qu'il y a un esprit de séduction qui est derrière. La séduction, c'est vraiment quelque chose qui cherche à dominer l'esprit des gens. Vous avez remarqué combien dans les publicités actuellement, il est fait appel à la séduction. Ça veut dire que la publicité, on pourrait dire, une publicité bien faite, elle vanterait les qualités et les mérites d'un produit. Et vous prouverez combien ce produit va être intéressant pour vous, combien il aura des qualités au niveau du prix, de sa fabrication, que sais-je. Mais là, on voit que la plupart des pubs ne sont pas faites à ce niveau-là, mais elles sont faites simplement au travers d'images, de choses qui apparaissent comme étant agréables, belles, attirantes. Et donc, c'est uniquement un transfert d'esprit. C'est un esprit de séduction qui veut que vous fassiez l'analogie entre un produit et quelque chose qui plaît peut-être aux yeux. Et à ce moment-là, vous l'achetez, vous ne savez même pas pourquoi vous l'achetez. Vous n'avez même pas besoin, mais c'est quelque chose qui s'est produit. Donc c'est surnaturel. Et la séduction agit dans tous les domaines. Hein, si vous regardez quelqu'un qui est dans une secte, vous pouvez dire, mais pourquoi tu vas à cet endroit? Les gens sont en train de t'utiliser, abuser de toi, ça ne t'apporte rien dans ta vie, ça te démolit psychologiquement, ça te t'éloigne de ta famille. On a toutes les raisons de lui dire que c'est pas raisonnable. Mais lui, il trouve qu'il y trouve son bien, son compte, et qu'il est bien là-bas, parce qu'il y a la séduction qui agit. Donc, il y a la séduction, là encore, depuis Genèse 3:13, l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » 1 Timothée 3:14, il dit, « Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. » Donc ça serait encore une autre explication à donner, pourquoi il y a eu une séduction au niveau de Ève. Donc apprenons à discerner la séduction. Moi j'ai dit c'est possible. Il faut que nous apprenions, j'ai dit, pour être une église plus conquérante, il faut que nous apprenions à affûter nos armes spirituelles et être capables de discerner, de dire là, il y a séduction. Hébreux 5, 12 dit, « Vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments de la parole de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Nous avons besoin d'avoir l'expérience de la parole de justice. Comparer la situation qui se passe devant nos yeux ou autour de nous avec ce que la parole dit. Est-ce que nous pouvons accepter cet état de fait ou est-ce qu'il y a séduction? La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé à l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. usage. Usage, ça veut dire quoi? Ben, qu'on fait régulièrement, souvent. C'est pas une fois. C'est pas je me suis réveillé ce matin et tout à coup j'ai eu le discernement. Mais à force d'observer, j'ai acquis un discernement. C'est ce que nous sommes appelés à faire. On peut dire, nous avons besoin d'un entraînement et de faire régulièrement notre gymnastique spirituelle. Moi, je trouve toujours intéressant dans ceux qui pratiquent un sport dans un club, par exemple. Il y a le mois de septembre, c'est la rentrée. Alors, quand on n'a pas fait d'exercice pendant 2 mois, 3 mois, on a peut-être fait d'autres choses. On a bougé avec notre corps. Mais si on pratique un sport particulier, nous avons je ne sais combien de milliers de muscles qui agissent dans notre cœur, dans notre corps. Et à ce moment-là, il y a certains muscles qui n'ont plus été utilisés d'une façon ou d'une autre. Et alors, il y a des courbatures suite aux premiers entraînements. Et je crois que spirituellement, ça peut être un petit peu la même chose. Nous pouvons avoir quelques difficultés au début pour la mise en route. Mais ce qu'il nous faut faire, c'est comprendre ce principe que nous exerçons régulièrement à juger et à discerner. Et on commence alors à développer un peu une expertise. Alors pareil, on regarde les champions, ce qu'ils réalisent au niveau sportif peut-être. On se dit, ah, jamais je pourrais. Oui, mais ils n'ont pas non plus du jour au lendemain fait ce qu'ils font actuellement. Ils se sont exercés. On pense aussi, et j'espère que vous êtes aussi dans cette situation, on aimerait être beaucoup plus précis dans l'exercice du ministère. Tout de suite discerner quel est le problème de la personne. Non, vous n'aimeriez pas savoir ce qui se passe au fond pour être beaucoup plus efficace. Quand on regarde Marc 2:5, c'était l'histoire du paralytique. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Remarquez bien, il nous est dit, il se disait au-dedans d'eux. Même Jésus, qui pourtant était fils de Dieu, a vécu comme un simple homme. Il n'était pas omniscient. Il ne savait pas lire dans les pensées des gens. Sinon, il aurait utilisé sa divinité pour vivre parmi nous. Comprenez? Or, il a vécu comme un simple homme. Mais dans la suite, il nous est dit, « Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans votre cœur ?» Aussitôt, ça veut dire c'est venu à ce moment-là par une révélation du Saint-Esprit qui lui a montré ce que ces gens pensaient. Parce que si Jésus avait pleinement profité de sa divinité, il n'aurait pas été tenté comme nous en toute chose. Il a renoncé à ses attributs divins et il a vécu comme un simple homme, mais un homme conduit par l'Esprit. Et à ce moment-là, quand il en avait besoin pour le discernement, il savait même ce qu'il se passait dans le cœur d'une personne. Et ainsi, il pouvait aider, et nous en avons besoin de la même façon, par rapport à la séduction. Croyez pas? De voir ce qui se passe. Quels sont les desseins du cœur? Moi, j'admire ces hommes qui ont, comme Élisée, quand le serviteur a couru après Naaman le Syrien, pour essayer de gagner de l'argent par rapport à la guérison de cet homme. Et quand il revient, il dit, où est-ce que tu étais? Oh, j'étais nulle part. Alors, il dit, moi je traduis avec nos mots actuels, il dit nulle part. J'étais présent en esprit au moment où tu as reçu l'argent. Je t'ai vu. Imaginez le discernement, l'acuité spirituelle, la vision. Je dis, c'est ça que nous désirons. Pourquoi faire? Pour aider les gens, pour exercer le ministère d'une façon efficace, de voir qu'est-ce qui se passe. Donc on a parlé un peu de ces choses. Je voudrais quand même terminer par le point que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et détruire, ça veut dire il y a une action. Il y a quelque chose de positif qui se fait. On dirait, est-ce que c'est positif de détruire? Dans ce sens, oui. Parce qu'on détruit des œuvres mauvaises. Jésus n'est pas venu simplement pour aider quelques-uns à résister. Mais il est venu pour détruire, on peut dire, les œuvres du diable, c'est-à-dire l'ensemble du royaume du diable. 1 Jean 3:8 dit « Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle pour les pauvres, c'est tu n'as plus besoin d'être pauvre. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour que leur cœur soit guéri. Proclamer aux captifs la délivrance et qu'ils soient délivrés. Aux aveugles, recouvrement de la vue, c'est par rapport à l'œuvre du diable qui rend aveugle. On l'a vu spirituellement aussi, au travers de la séduction. Mais combien d'aveugles, on voit aussi dans les évangiles, qui ont été guéris. Renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. Et l'année de grâce, nous, on n'a peut-être pas trop conscience de ce que c'est, mais c'est le jubilé. Le jubilé où toute personne ayant des dettes, on effaçait les dettes. C'était un renouveau. C'était une occasion de recommencer tout à zéro. C'est en fait la plus belle illustration de ce qu'est notre nouvelle naissance. La vie entière qui était passée, tout est terminé. On recommence à zéro. Il n'y a plus de passif. Il n'y a plus rien. On recommence une nouvelle vie. Donc, Jésus est venu détruire les œuvres du diable pour le vaincre. Le dépouiller, Colossiens 2, 15, il a dépouillé les dominations et les autorités. Donc ça veut dire qu'il prend le butin, littéralement, prend de ce qui le diable a pris et le restitue dans le royaume de Dieu. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a fait une œuvre de recréation. Nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ. Hein. Il nous dit, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On n'est pas juste l'ancien avec un petit peu rafistolé, une nouvelle créature en Christ. Il est venu aussi pour restaurer, par exemple le psaume 23 dit « L'Éternel est mon berger, il restaure mon âme » parce que notre esprit est recréé, mais notre âme a besoin souvent de restauration. Et il est venu détruire les œuvres du diable, mais vous savez qu'il n'est plus là physiquement, mais nous sommes son corps, nous sommes là et nous sommes envoyés. Envoyé. Marc 16, 15, un des premiers miracles qui est nommé, hein, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront des démons. Ça veut dire, il y a une action active, il y a quelque chose d'actif que nous faisons. Donc la prochaine fois que vous avez une difficulté, essayez d'écouter Dieu, de voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis troublé? Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Pourquoi elle réagit comme ça? Peut-être Dieu va vous montrer quelque chose, et sinon, ça ne vous coûte pas cher d'utiliser le nom de Jésus. Ça vous coûte juste de le prononcer de votre bouche ou de prendre autorité, comme on dit, de dire au nom de Jésus, je refuse cette situation, je refuse cette parole, je refuse cette action contre nous. D'accord? Il nous est dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux. Nous ne pouvons pas toujours attendre que Dieu fasse le travail que lui nous a demandé de faire. Ça ne marchera pas comme ça. Donc soyons spirituellement plus agressifs, pas juste rester sur notre défensive, garder nos positions, mais sachant que nous avons à investir un royaume pour Dieu. Je pense aussi, on parlait de la guerre qui a eu lieu, Deuxième Guerre mondiale ici, quand on pense que notre pays pensait se défendre par la ligne Maginot et que tous ces travaux qui ont été faits n'ont jamais servi à rien du tout, qu'elle a été rapidement contournée, je pense qu'on peut aussi réfléchir par rapport à notre propre vie. Peut-être notre système de défense est un peu vieillot, désuet, et le diable rigole et puis il le contourne facilement et il nous attaque là où on ne s'y attend pas. Alors, nous avons besoin, comme on nous a été rappelé aujourd'hui, de ne pas ignorer ses desseins et de ne pas se ridiculiser. Jacques 4, 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Il est dit de vous. Vous imaginez que le diable puisse avoir peur de vous? C'est la Bible qui le dit ici. C'est pas pour vous dire, oh, je suis quand même quelqu'un de formidable. Mais ça veut dire que si vous êtes dans cette position de soumission à Dieu, que vous résistez au diable, réellement, vous êtes une menace pour lui et il fuit. C'est la Bible qui le dit. Parce que vous êtes vraiment alors en pleine lumière et les ténèbres ont horreur de la lumière. Quelqu'un a dit une fois que dans le terme grec, fuir, ça va très loin. c'est partir, mais comme pris de panique, saisi de terreur. Donc, méditez sur ça. Que le Seigneur travaille avec vous. Amen. Seigneur, merci pour la révélation de ta parole qui éclaire et donne l'intelligence au simple. Et nous croyons que tu veux encore nous aider à mener nos batailles de tous les jours. Et il y a un repos de la foi, il y a une position où nous pouvons être vraiment en pleine sécurité avec toi. Amen.
Nous espérons que ce message vous a plu et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction. Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseigne-moi.com sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.